Voici une question dont la réponse pourra transformer votre vie. Est-ce que tous les humains sont des enfants de Dieu? Vous ne serez plus jamais le même si vous saisissez la réponse que la parole de Dieu va nous donner aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Trouve donc que la parole de Dieu est puissante. Après tout, elle a changé ma vie. Saviez-vous que Jésus est la parole? Allez voir dans le premier chapitre de l'Évangile de Jean. Les versets 1 et 14 nous le disent clairement. Et aujourd'hui, Jésus va parler à nos cœurs en répondant aux questions que voici. Qu'est-ce que la loi nous révèle? Quelle est la solution au péché de l'humanité? Est-ce que Dieu accepte l'observation de la loi comme moyen de salut? Qu'est-ce que la loi prouve? Quel est le but de la loi? Qu'est-ce qui peut faire de nous des fils de Dieu? Comment est-ce qu'on peut être parfait aux yeux de Dieu? Qu'est-ce qui peut faire tomber les barrières sociales et raciales de nos jours? Restez avec nous, le pasteur Régent Joly est prêt à nous enseigner ce que dit la Bible en réponse à toutes nos questions. Mais premièrement, prions. Merci Seigneur d'être si fidèle, de nous enseigner ta parole jour après jour. Merci pour cette bonne nourriture spirituelle que tu nous donnes. Merci, mon Dieu, merci pour toutes les grâces, les bienfaits, les bénédictions que tu nous donnes chaque jour. Et merci pour tout ce que tu vas nous dire aujourd'hui. Nos oreilles sont ouvertes, Seigneur. Aide-nous à ouvrir nos cœurs bien grands et fais pénétrer ta parole dedans. On s'attend à toi, mon Dieu. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons vu qu'en mourant à la croix, le Seigneur Jésus a effacé l'acte qui nous condamnait. Il est devenu malédiction pour nous. Ceux qui croient en Jésus-Christ font un avec lui, et ce sont eux qui héritent des promesses faites à Abraham. Jésus-Christ est la postérité par laquelle les promesses sont accomplies. Toutes les nations sont bénies en Jésus-Christ. La loi fut donnée temporairement afin de révéler notre état de pécheur. Elle révèle nos péchés, mais elle ne peut pas les ôter. Il faut l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde pour faire cela. Cet agneau est Jésus-Christ, la personne en qui les promesses faites à Abraham trouvent leur accomplissement. Il est encore nécessaire d'enseigner la loi aujourd'hui, car elle nous convainc de pécher. La loi nous fait découvrir la loi du péché dans nos membres. Chers amis, débutons notre lecture. Galates, chapitre 3, versets 19 et 20. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi enseigne ce qui est mal et expose notre cœur porté vers le mal. La loi était nécessaire pour nous faire voir nos transgressions. Paul a repris ce thème dans l'Épître aux Romains. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « Tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie en moi, et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. Romains chapitre 7, versets 7 à 11. La loi nous révèle ce qui est mal et le fait que nous avons un cœur porté vers le mal. La loi nous condamne, chers amis, car nous sommes incapables de l'observer. Verset 21. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. La croix était l'unique solution au péché de l'humanité. Dieu aurait été injuste d'envoyer son Fils mourir à la croix s'il avait eu un autre moyen de nous sauver. Mais aucune loi ne pouvait nous sauver. Lorsque Jésus était à l'agonie dans le jardin de Gethsémané, il fit cette prière. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Citation de Matthieu, chapitre 26, verset 39. C'était juste avant que Jésus soit arrêté pour être crucifié. Oui, chers amis, il n'y avait pas d'autre moyen de sauver l'humanité. Jésus se soumit à la volonté de son Père et il alla à la croix pour nous racheter de nos péchés. Verset 22. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Je vous cite un extrait de l'Épître aux Romains comme commentaire sur ce verset. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Citation de Romains chapitre 3, versets 19 à 24. Dieu avait promis que nous serions rachetés et justifiés. Ce don de la grâce de Dieu, c'est par la foi que nous l'acceptons. Verset 23. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. La loi restreignait le péché, car les gens la suivaient par peur des conséquences, mais pas nécessairement de bon cœur. Un criminel emprisonné ne demande qu'à sortir. Il ne peut faire le mal, mais ce n'est pas de bon cœur, c'est parce qu'il en est empêché. Plus important encore, la loi nous faisait découvrir notre état spirituel lamentable et notre condamnation. Le but de la loi n'était pas de nous détruire, mais de nous conduire vers notre Sauveur. Verset 24. Ainsi, la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Dieu n'accepte pas l'observation de la loi comme moyen de salut. Ceci est une section remarquable. Paul explique clairement que la loi mosaïque ne peut pas être un instrument de salut. Romains chapitre 4, verset 5 nous dit « Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » Dieu n'accepte pas nos œuvres comme prix pour notre salut. Il dit que toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Ésaïe, chapitre 64, verset 5. Dieu n'accepte pas l'observation de la loi comme moyen de salut. La loi ne fut pas donnée pour nous sauver, mais pour nous faire découvrir notre état de pécheur. La loi n'ôte pas le péché, mais elle l'expose. La loi ne vous prémunira pas contre le péché, parce que le péché est déjà présent dans votre cœur. La loi montre que l'image que fait Hollywood de l'homme ne correspond pas à la réalité. Hollywood le présente comme un pécheur sophistiqué, raffiné et éduqué. En fait, le péché rend l'homme extrêmement laid. La loi prouve que je suis un pécheur et ne fait jamais de moi un saint. permettez que j'illustre mon point de vue avec l'exemple d'un lavabo au-dessus duquel se trouve un miroir. Le lavabo et le miroir ont chacun leur utilité. Si vous avez une tache sur le visage, vous allez à l'évier pour l'ôter. Ce n'est pas le miroir qui est taché, ni ce miroir qui va faire partir votre tache. Le miroir correspond à la loi. Il révèle que nous avons une tache au visage et la loi révèle que nous sommes des pécheurs. La parole de Dieu révèle ce que nous sommes vraiment, des pécheurs qui sont privés de la gloire de Dieu. Mais nous louons le Seigneur de ce que sous le miroir, il y ait un évier. Le sang de Jésus-Christ versé à la croix, et c'est ce sang qui nous lave de nos péchés. La loi prouve que je suis un pécheur et ne fait jamais de moi un saint. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Romains chapitre 3, verset 19. Ainsi la loi a été comme un pédagogue, dit Paul. Maintenant, il va élaborer son idée. Verset 25 de Galates chapitre 3. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Le mot pédagogue est tiré du mot grec pédagogos, et ce mot ne signifie pas un enseignant. Ce mot avait un sens très différent au temps de Paul. Un pédagogue était un esclave ou un serviteur qui faisait partie de la maison. La moitié de la population de l'Empire romain était réduite à l'esclavage. Chez les familles patriciennes, c'est-à-dire chez les aristocrates romains, les gens très riches, les enfants étaient confiés aux soins d'un esclave appelé pédagogue. C'est l'esclave qui s'occupait de l'enfant et de ses besoins quotidiens. Lorsque l'enfant était en âge d'aller à l'école, c'est le pédagogue qui le réveillait et l'aidait à se préparer pour l'école. Ensuite, il conduisait l'enfant à l'école. C'est de là que sort le mot « pédagogue ». Ped est un mot grec qui se rapporte au pied et c'est la racine du mot pédale. Agogos signifie conduire. Le pédagogue prenait l'enfant par la main et le conduisait à l'école pour le remettre entre les mains de l'enseignant. L'esclave n'était pas qualifié pour enseigner l'enfant, donc celui-ci alla à l'école. Le but de la loi est de conduire les gens au Seigneur Jésus. Maintenant, Paul dit que la loi est notre pédagogue. La loi dit, « Cher enfant, je ne peux faire davantage pour toi. Je veux te prendre par la main et te conduire à la croix de Jésus-Christ. Tu es perdu et tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'un sauveur. » Le but de la loi est de conduire les gens au Seigneur Jésus, pas de les gonfler d'orgueil afin qu'ils se vantent d'observer la loi. Vous savez que vous êtes incapable d'observer la loi. Pour vous en convaincre, vous n'avez qu'à examiner votre cœur. Verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Dans le reste de ce chapitre et dans la première partie du chapitre 4, Paul va énumérer les bienfaits que nous obtenons en plaçant notre confiance en Jésus-Christ, des bienfaits que nous n'aurions pu obtenir par la loi. Celle-ci n'aurait pu donner à un croyant une nouvelle nature, la nature du Fils de Dieu. Cependant, le Seigneur Jésus peut faire cela. Seulement la foi en Jésus-Christ peut faire de nous des fils de Dieu. Oui, chers amis, seulement la foi en Jésus-Christ peut faire de nous des fils de Dieu légitimes. J'emploie le mot « légitime » pour mettre l'accent que seuls les fils de Dieu sont des fils légitimes. Vous devenez un fils de Dieu légitime par la foi en Jésus-Christ. Et c'est tout ce qui est nécessaire. Ce n'est pas la foi avec autre chose, mais la foi et rien d'autre qui fait de vous un fils de Dieu. Rien d'autre ne peut faire de vous un fils de Dieu, chers amis. Car vous êtes tous fils de Dieu. Comment? Par la foi en Jésus-Christ. Un individu, sous la loi, dans l'Ancien Testament, ne fut jamais appelé un fils, mais seulement un serviteur. Dieu a dit d'Israël, « Israël est mon fils ». Cependant, les individus qui formaient cette nation ne furent jamais appelés des fils. Un homme de Dieu était appelé un serviteur de Dieu. Par exemple, Moïse avait une relation intime avec Dieu, mais Dieu dit de lui, « Moïse, mon serviteur, est mort. » Josué, chapitre 1, verset 2. Ce fut son épitaphe. Malgré que David fût un homme selon le cœur de Dieu, il l'a appelé « David, mon serviteur ». Un roi, chapitre 11, verset 38. Mes amis, même si vous observiez la loi, ce que vous ne pouvez pas faire, votre justice serait inférieure à celle de Dieu. Pour devenir fils de Dieu, il nous faut la justice de Dieu. Le Nouveau Testament nous dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Citation de l'Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 12. Le mot grec traduit « pouvoir » est « exousiane », et il signifie « autorité » ou « droit ». Nous obtenons le pouvoir de devenir enfants de Dieu en faisant rien d'autre que de mettre notre confiance en Jésus-Christ, le seul, unique pouvoir de Dieu. Un pharisien nommé Nicodème, un homme religieux, chef des Juifs, observait la loi méticuleusement, mais il n'était pas un fils de Dieu, et ce malgré qu'il suivait la loi établie par Dieu. Jésus lui dit, « Il faut que vous naissiez de nouveau. » Jean chapitre 3, verset 7. Je vais être clair et dogmatique. Vos prières, vos dons et talents, votre baptême et votre religion ne font pas de vous des fils de Dieu. Seule la foi en Jésus-Christ peut faire cela. La doctrine de la paternité universelle de Dieu et de la fraternité universelle des hommes est une doctrine des plus condamnables. Mais le Seigneur Jésus ne voyait pas les choses ainsi. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Citation de l'Évangile selon Jean chapitre 8, verset 44. De toute évidence, il y en a qui n'étaient pas fils de Dieu. Ce n'est pas moi qui ai prononcé ces paroles, mais le Seigneur Jésus. Mes amis, je crains que le diable ait encore de nombreux enfants dans le monde aujourd'hui. Le seul moyen de devenir fils de Dieu est par la foi en Jésus-Christ, par la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Dieu nous voit dans son Fils, donc il nous voit parfaits. J'espère que vous vous rendez compte que ce verset ne réfère pas à un baptême rituel fait avec de l'eau ou dans l'eau. Chaque croyant devrait se faire baptiser. Je pense aussi que le baptême devrait se faire par immersion, car c'est sous cette forme qu'il illustre le mieux le véritable baptême, soit le baptême du Saint-Esprit. Le baptême de l'Esprit vous incorpore au corps de Christ qui est formé de tous les véritables croyants. Paul dit, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Ceci signifie que nous sommes identifiés à Christ. Nous sommes véritablement incorporés au corps des croyants, qui est l'Église. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Dieu nous voit dans son Fils, donc il nous voit parfaits. Verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ fait tomber les barrières sociales et raciales. Dans le corps des croyants, il n'y a plus ni juif ni grec. En Jésus-Christ, il n'y a pas de distinction raciale. Tout homme uni à Christ est mon frère, qu'importe la couleur de sa peau. C'est la couleur de son cœur qui m'intéresse, lavé, purifié dans le sang de Jésus. Il y a beaucoup de blancs qui se promènent avec des cœurs noirs, mes amis, et ils ne sont pas mes frères. Ce n'est qu'en Jésus-Christ que nous devenons un. Nous louons Dieu parce que nous recevons, via notre site Internet, des courriels du monde entier, de l'Afrique et de l'Asie, et ils nous appellent frères. c'est bien parce qu'ils sont nos frères et nous sommes leurs frères. Nous sommes un en Christ et nous passerons l'éternité ensemble. Il n'y a plus ni esclaves ni libres. De nos jours, les patrons et les employés sont souvent à couteau tiré. La seule chose qui peut vraiment les rapprocher est le Seigneur Jésus, bien entendu. Il n'y a plus ni homme ni femme. Le Seigneur Jésus accomplit ce que le mouvement de la libération de la femme ne pourra jamais accomplir. Il unit en lui les hommes et les femmes. N'est-ce pas merveilleux? Verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Comment pouvons-nous être les descendants d'Abraham? Bien, Abraham fut sauvé par la foi. Et nous sommes sauvés par la foi. Abraham a offert un animal en sacrifice, et ce sacrifice illustrait le sacrifice suprême du Fils de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus est déjà venu, et je peux jeter un regard sur l'histoire et dire, il y a presque 2000 ans, le Fils de Dieu est venu, et il est mort sur la croix pour moi, afin que je puisse avoir la vie, et que je lui fais confiance. Si je suis dans le Seigneur Jésus, et que vous l'êtes aussi, alors nous faisons partie de la postérité d'Abraham, et nous sommes héritiers selon la promesse. C'est merveilleux. Le premier bienfait qui découle de la confiance que nous mettons en Jésus-Christ et son œuvre à la croix, c'est que nous devenons fils de Dieu. Nous ne naissons pas fils de Dieu. Le fait que nous sommes des créatures de Dieu ne fait pas nous des fils de Dieu. Plutôt, nous avons cité une parole de Jésus-Christ qui indique que certains sont les fils du diable. Mais notez ce verset qui démontre que nous devenons enfants de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Citation de l'Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 12. Le contexte de ce verset parle de la parole faite chair, c'est-à-dire de la personne de Jésus-Christ. Le Fils de Dieu fait de nous des enfants de Dieu lorsque nous croyons en lui. Voici d'autres versets intéressants. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Citation de Romains, chapitre 8, versets 15 et 16. Mais, lorsque les temps étaient accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Galates, chapitre 4, versets 4 à 6. Et il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Citation d'Éphésiens chapitre 1 verset 5. Chers amis, nous ne venons pas au monde enfants de Dieu, mais nous sommes invités à le devenir par la foi en Jésus. Depuis la chute d'Adam, les êtres humains ont des natures pécheresses et ils sont en révolte contre Dieu. Cependant, Dieu nous a créés pour que nous le glorifions en l'aimant. Donc, Dieu nous invite à revenir à lui, et il accueille avec joie quiconque revient à lui par la repentance, afin de pouvoir le reconnaître comme Dieu personnel. Le sacrifice de son Fils à la croix efface les péchés de ceux qui reviennent à Dieu, et il les adopte dans sa famille. Donc, nous ne sommes pas enfants de Dieu parce que nous sommes des créatures de Dieu, parce que nous avons été baptisés alors que nous étions un nourrisson, mais plutôt parce que le Seigneur Jésus nous a rachetés. Chers amis, êtes-vous devenus un enfant de Dieu par la foi en Jésus seul? Préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Galates chapitre 4, versets 1 à 7.
Merci beaucoup, Régent. Une fois de plus, ça a été clair aujourd'hui qu'on n'est pas sauvé en observant la loi de Dieu, mais par la foi en Jésus seul. Voilà comment on devient un enfant de Dieu. D'ailleurs, mes amis, dans l'Évangile de Jean, au premier chapitre, au verset 12, il est écrit qu'à tous ceux qui ont reçu la parole, qui est Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais j'aime beaucoup aussi ce que Régent a dit concernant les barrières sociales et raciales qui tombent par la foi en Jésus-Christ. C'est tellement bon d'entendre que tout homme uni à Christ est mon frère, qu'importe la couleur de sa peau. Et j'ai hâte de connaître ceux que je n'ai pas encore rencontrés. Je sais que ceux que je ne connaîtrai pas de mon vivant sur cette terre, je les connaîtrai quand j'irai à la rencontre de Jésus dans les airs, parce qu'on va tous être enlevés ensemble. Si vous n'avez pas encore lu ça dans la Bible, vous pensez peut-être que ce que je dis, c'est un petit peu flyé. Alors permettez-moi de vous lire le passage qui confirme ce que je viens de dire. C'est un de mes passages préférés, un passage plein d'encouragement. C'est dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 4, des versets 15 à 17. Ma prière, c'est que ces versets puissent vous encourager, vous aussi. Alors Paul dit, « Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc par ces paroles. » Quel encouragement pour tous les enfants de Dieu. Oh mon ami, j'espère que tu es un enfant de Dieu. En es-tu un? As-tu reçu la parole qui est Jésus? Cette parole qui nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu? Sinon, il est encore temps de recevoir Jésus comme ton Sauveur, comme ton Seigneur. Reconnais que tu es un pécheur perdu, que tu es incapable de te sauver toi-même. Place ta confiance en Jésus seul. C'est lui qui est mort sur la croix. C'est lui qui a subi la condamnation qu'on méritait tous pour nos péchés. Mon ami, repens-toi. Change de direction à l'égard du péché. Demande à Dieu de te pardonner. Demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle, et tu vas devenir un enfant de Dieu. Tu vas avoir part à toutes les promesses qu'il fait aux enfants de Dieu, et quand il viendra nous chercher sur des nuées, tu vas aller à la rencontre du Seigneur, tu vas voir sa face, et tu vas voir tous tes frères et sœurs qui ont cru en Jésus pour être sauvés eux aussi. Des frères et sœurs de toutes les nations, de toutes les races, de tous les standings sociaux. Et on va être dans la présence du roi des rois, du seigneur des seigneurs pour l'éternité. Ne manque pas cette opportunité de recevoir Jésus comme ton sauveur.
Bien oui, chers amis, nous vous offrons des cours bibliques par correspondance.
Une minute, Régent. Est-ce que c'est compliqué, ces cours-là? Parce que tu sais, moi, je suis pas très, très intellectuel.
Hein? Rien de plus facile, Caro.
Oui.
Les gens n'ont qu'à prendre la Bible qu'ils ont à la maison,
oui,
de nous commander ces petits livrets, et par le fait même, en quelques minutes seulement, ils auront répondu à ces simples questions.
Est-ce qu'il y a beaucoup de
par cœur? En rapport avec le texte qu'ils auront lu, du par cœur. Quasiment pas de par cœur.
Oui, c'est intéressant.
C'est juste des questions, des qui, quoi, comment, pourquoi.
Pour mieux connaître Dieu.
Approfondir le texte biblique afin qu'il puisse nous parler et même nous interpeller. Car son auteur, Dieu, est vivant.
Ah, ça, j'en suis certaine, Régent.
Et il a des choses très importantes à partager avec nous.
J'ai le goût de m'inscrire.
Voilà le but, le pourquoi nous vous offrons ces cours par correspondance, à partir de chez vous. Pour toute correspondance.
Alors, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
En composant le 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647, ou via courriel
à www.radioespoir.ca. Et aussi, on a une adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, Québec, G1G 6P2. À demain!
Oui!
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.